Quand j'étais à l'école primaire, nous vivions dans une petite banlieue de Détroit, dans le Michigan. Elle s'appelait Ferndale. Mes frères et moi, en tant que jeunes garçons, nous jouions, en fait, de l'autre côté de la rue, dans le parc de la ville, avec les enfants du quartier, sur les balançoires, et avec d'autres choses, et aussi dans la terre. Tous les jours, pendant la semaine, vers 17h, ma mère nous appelait pour le dîner. C'était la routine. Nous dînions ensemble, en famille, une fois par jour, et cela 5 jours par semaine. C'était ainsi que les choses se passaient dans ma famille quand j'étais jeune. Nous n'étions pas une famille particulièrement religieuse, même si nous étions catholiques, je sais que je l'ai déjà mentionné, mais à la fin de la journée, nous nous asseyions ensemble autour de cette petite table, dans un quartier ouvrier à l'extérieur de Détroit. Et avant de manger, l'un de nous, parmi les garçons, disait une prière avant de dîner. C'est ce que nous appelons « rendre grâce » ou « dire les grâces ». C'était vraiment l'habitude de notre famille d'ouvriers catholiques, de col bleu. Et généralement, c'était généralement ma mère qui faisait appel à l'un de nous parce qu'elle était impliquée dans l'Église catholique. Et elle s'assurait que ces 3 garçons le soient aussi. Mais nous avons l'habitude de dire une courte prière simple avant le dîner. Cela ressemblait à ceci. Bénis-nous, ô Seigneur, pour ces dons que nous allons recevoir de toi. Amen. C'était ça. C'était court. Et c'était simple. Il est intéressant de noter que ce que les catholiques appellent rendre grâce ou dire les grâces est en fait une prière de bénédiction. Bénis-nous, ô Seigneur, avec ces dons. Mais le mot grâce vient du mot latin gratia, qui signifie merci ou gratitude pour la grâce reçue. Certains d'entre vous, les plus âgés dans l'auditoire, se souviendront peut-être de certaines peintures célèbres de Norman Rockwell. De nombreuses personnes les apprécient même aujourd'hui. Mais le tableau qui était peint et qui figurait sur la couverture de Saturday Evening Post vers la fête de Thanksgiving en 1951 était en fait intitulé « Rendre grâce, dire les grâces ». Il s'agit de la photo d'un garçon, un petit garçon mennonite d'environ 12 ans dans un restaurant à New York avec sa mère qui incline la tête en rendant grâce ou en disant une prière avec un repas avec tous les clients qui regardaient avec les cigarettes à la bouche. Vraiment incrédule en voyant ce petit garçon priant dans un restaurant avec un repas. Rendre grâce ou dire les grâces faisait généralement référence à toute prière dite avant un repas. Ainsi, la pratique de rendre grâce, dire les grâces avant le repas du soir est devenue une habitude de la famille Orchak quand j'étais un petit garçon. Une autre pratique qui est devenue routinière pour moi en tant que jeune garçon catholique était la mémorisation des prières. Je sais que j'ai déjà partagé ceci localement quand j'allais au catéchisme qui était l'équivalent, je suppose, on pourrait dire, de l'école du sabbat pour les enfants catholiques. C'était chaque semaine, le samedi, en fait, vous étiez noté sur vos prières si vous les mémorisiez parfaitement ou non. Les étudiants de l'Institut de fondement que nous avons parmi nous doivent mémoriser les écritures, vous n'êtes pas les seuls. Certains d'entre nous, nous vous avons dévancé et nous avons dû batailler pour la faire il y a longtemps. Mais nous mémoriser des prières, ce qui n'est peut-être pas la meilleure façon, la meilleure chose à faire, mais cela fait les mois partie de ce que nous l'avons fait. L'une des choses que je devais me souvenir, celle que vous connaissez tous assez bien, elle s'appelle la prière du Seigneur. Nous savons où cela se trouve dans les écritures. Pour beaucoup de gens, la reconnaissance de ce à quoi nous nous référons dans Matthieu chapitre 6, c'est-à-dire la prière du Seigneur, est le moment où les gens ont commencé à prier pendant le repas, simplement à cause de la déclaration que Christ a faite dans cette prière. Et bien sûr, cela vient de l'enseignement de Jésus-Christ que nous appelons le serment sur la montagne de Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Reportez-vous à Matthieu chapitre 6, je vais lire juste un peu les instructions du Christ sur ce que nous appelons la prière du Seigneur. Matthieu 6, on commence au verset 8. Avant ce verset, il a parlé de la façon dont certains juifs et certains des pharisiens ont fait une démonstration publique de la justice. Mais lorsqu'il est arrivé au verset 8, il allait enseigner à ses disciples comment le faire correctement. Bien sûr, beaucoup d'entre nous dans cette salle ont été responsables, chargés pour enseigner aux autres comment bien faire les choses, où nous avons appris nous-mêmes, depuis que nous sommes entrés dans l'Église, de comment bien faire les choses. Le Christ, bien sûr, voulait que ses disciples et l'Église, par extension, sachent comment bien faire les choses. Verset 8, il a dit, « Ne le ressemblez pas, il parlait des pharisiens, car votre Père sait que quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. » Il y a des moments où je lisais cela, je me demandais, « Eh bien, si c'est vrai, alors pourquoi prier? S'il s'agit d'informer le Père de quelque chose qui ne sait peut-être pas, et s'il le sait déjà, alors pourquoi prier? C'est peut-être pour une autre époque, mais cela recoupe un peu ce dont je veux parler aujourd'hui. Verset 9. Voici où il commence à instruire. Il a dit au verset 9, voici donc comment vous devez prier. Donc, nous avons depuis longtemps reconnu que l'instruction que nous sommes sur le point de lire était les principes fondamentaux de Jésus-Christ sur comment et sur quoi prier. Remarquez ce qu'il a dit au verset 9. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Puis le verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que voulait dire Christ par cette déclaration? Je veux vous mettre en garde, ne vous précipitez pas trop vite pour peut-être penser ou dire ce qui est évident. Que voulait-il dire par cette déclaration, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? Nous exhorte-t-il à faire une telle demande? Est-ce le moment pour nous d'exiger quelque chose de Dieu chaque jour que nous prions, ou y avait-il quelque chose de plus profond, une signification plus profonde à laquelle Jésus faisait référence, et qu'il s'attend à ce que nous, en tant que son peuple, nous comprenions? Eh bien, frère, aujourd'hui, je veux parler de ces six mots, donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien, en espérant montrer le sens plus profond derrière ces paroles, et pourquoi elles sont importantes pour nous dans l'Église aujourd'hui. Tout d'abord, je veux commenter sur ce qui peut sembler être une évidence, car j'y ai déjà fait référence, c'est prier pour rendre grâce pour la nourriture. L'une des applications les plus courantes des paroles du Christ dans Matthieu chapitre 6 est la prière pour un repas avant de le consommer ou avant de le manger. La plupart des personnes ici présentes aujourd'hui ont probablement été témoins d'avoir vu quelqu'un dans la famille prier aujourd'hui avant repas, ou s'ils ne l'ont pas fait encore aujourd'hui, ils le feront ou l'ont déjà fait hier soir. Cela fait partie de notre expérience commune dans l'Église. Nous le faisons depuis que nos enfants sont tout petits. Parfois même, aujourd'hui, quand on peut avoir des enfants autour de la table familiale, je leur demande s'ils sont disposés à remercier Dieu ou à demander la bénédiction du repas, comme nous l'appelons habituellement. Souvent, nos petits-enfants, nous avons fait cela avec nos petits-enfants quand ils ont grandi quelque peu. Ils ont un peu vieilli. Je n'oublierai pas quand notre petite Zoé, il y a quelques années, alors que nous étions chez nous pour papa, et que je lui ai demandé si elle voulait ou non prier. Bien sûr, Zoé est toujours impatiente de faire quelque chose, même si elle ne sait pas comment faire. Elle dira, oui, laissez-moi faire. Mais de toute façon, elle prie en fait, et ce qu'elle avait à dire, c'est de remercier Dieu pour la nourriture, ainsi que pour sa mère et son père. Oui, elle a cru grand-mère et grand-père qui étaient heureux d'entendre cela, mais à la fin, elle a prié au nom de Moïse. Alors j'ai souri en écoutant ma petite fille prier, et tout d'un coup, elle insère le nom de Moïse. J'ai pensé, attendez une minute, ici nous allons devoir régler cela, mais je ne voulais pas le décourager, donc j'ai simplement dit gentiment, « Tu sais, Zoé, c'est le nom de Jésus. » Et puis elle a dit, « Au nom de Jésus. » Ensuite, elle a dit, « Mais qu'en est-il de Moïse ?» C'était toute notre discussion que nous n'avons pas eue. Elle n'a pas fait cette erreur depuis, mais je ne l'ai pas corrigée. Je suppose que j'ai corrigé la situation en essayant de le faire d'une manière patiente et aimante. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons l'expérience dans ce domaine. Nous sommes tous expérimentés. Nous l'avons fait. Nous l'avons entendu. Nous avons écouté les autres prier pour le repas. Quand j'ai commencé à aller à l'église, alors que j'étais jeune adolescent au début des années 1960, mon père, parce que c'était lui qui est entré dans l'église, a commencé à prendre l'initiative à table de faire une prière avant le repas. Avant cela, c'était ma mère qui demandait à l'un de nous, le garçon. Il n'était pas vraiment impliqué dans la foi catholique, bien qu'il soit celui par qui nous sommes entrés dans l'église. Il a estimé qu'il était de sa responsabilité de le faire à table. Alors il a commencé à prendre les devants, il a commencé à l'appeler différemment. Ce n'était pas rendre grâce, dire les grâces, il appelait demander la bénédiction sur le pas. C'était différent pour nous, ce n'était pas la terminologie à laquelle j'étais habitué. Et ainsi le cadre du dîner consistait à prier avant le repas du soir, à subir un léger changement dans la maison Ochak, à cette époque en 1964. Au fil des années, à l'occasion, que ce soit dans notre propre maison, si nous avions des frères pour un repas partagé, ou si nous étions chez quelqu'un d'autre ou dans un groupe avec l'Église, les gens priaient à l'occasion du repas. Alors j'ai commencé à entendre plus de prières que je n'avais jamais entendues auparavant au cours du repas. C'est un fait. Parfois, j'entendais les choses assez intéressantes sortir de la bouche d'individus lorsqu'ils priaient à l'occasion du repas. Par exemple, les gens demandaient à Dieu d'enlever toutes les impuretés de la nourriture. Eh bien, vous savez, si vous êtes chez un invité qui vient de travailler dur pour vous servir le repas le plus merveilleux que vous puissiez imaginer, et qu'on vous demande ensuite, en tant qu'invité, de prier pour le repas, et que vous demandez consciencieusement à Dieu d'enlever toutes les impuretés de la nourriture, comment se sent le cuisinier? Je me suis posé des questions à ce sujet, mais j'ai pensé, d'accord, c'est juste. Je dis pas que c'est arrivé tout le temps. Je pense que beaucoup d'entre vous qui êtes dans l'Église depuis un certain temps, vous savez que cela n'a pas toujours été ainsi. Je ne nierai pas le fait qu'il y a certaines circonstances. Monsieur Mika pourrait l'affirmer, il y a certaines circonstances où c'est important. Donc je ne dis pas que ce n'est jamais approprié, mais j'ai juste trouvé que c'est parfois un peu étrange quand j'ai entendu en Amérique sur ce qui semblait être un repas tout à fait convenable et que c'était mentionné. Je vais commencer à parler de cela en regardant quelques exemples de Jésus-Christ. Nous trouvons dans les Écritures les exemples de Christ rendant grâce pour la nourriture, ce qu'il a clairement fait. Monsieur Gutiérrez en a fait mentionner une occasion, et je citerai un verset connexe à celui-ci dans un instant, de rendre grâce pour la nourriture et parfois d'utiliser un peu un terme grec différent qui est traduit en anglais comme nourriture bénie. Il y a principalement deux mots qui sont utilisés dans le Nouveau Testament quand quelqu'un prie avant de manger un repas. L'un d'eux est souvent traduit par béni et c'est eucharizo, d'où vient le mot eucharistie, eucharizo. Et cela signifie en fait gratitude ou rendre grâce. Ensuite, l'autre mot qui est utilisé, eulogio, qui est en fait bénir, remercier, dire du bien ou louer, il est souvent traduit par merci. D'abord, j'aborde cela simplement parce que nous voyons que Christ est celui qui a fait cette déclaration « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Nous y reviendrons dans un instant. Mais nous trouvons ces exemples de Jésus-Christ « Remercions le Père pour la nourriture avant de manger ». Les exemples les plus remarquables, les plus étonnants sont ceux qu'il a réellement accomplis, le miracle des poissons et des pains dans Matthieu chapitre 14. Encore une fois, c'est un verset parallèle à ce que M. Gutiérrez a mentionné. Mais dans Matthieu chapitre 14, verset 19, nous voyons Jésus fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, c'est eulogio, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. On pourrait conclure que je pense à la juste titre, qu'une partie de ce qui était demandé, je présume, était que Dieu bénisse cette petite quantité de nourriture afin qu'elle puisse nourrir des centaines de personnes. Ce qui s'est produit, clairement produit. Ensuite, nous trouvons dans Matthieu chapitre 15 un autre exemple. Matthieu chapitre 15, verset 36, un autre exemple. Dans ce cas, il prit les 7 pains et les poissons et après avoir rendu grâce, se eucharizo ou eucharisteo. Et cela signifie, il a rendu grâce, il les remplit et les donna à ses disciples qui les distribuaient à la foule. Ce ne sont pas les seuls exemples, mais ce sont quelques-uns des principaux exemples du Christ rendant grâce au Père pour la nourriture avant qu'il ne la consomme. Nous trouvons un autre exemple dans Actes chapitre 27. Ce n'est pas celui de Jésus, mais l'apôtre Paul. Dans Matthieu, maintenant, dans Actes chapitre 27, c'était l'occasion où il rompait le jeûne, le jour de l'expiation était passé, et nous trouvons au verset 34 d'Actes chapitre 27. Actes 27, verset 34. « Je vous invite donc à prendre la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut, et il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ainsi ayant parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, encore une fois, c'est eucharizo, Dieu à Dieu, devant tous, il le rompit et se mit à manger. » Nous voyons donc qu'au moins ces deux quelques exemples indiquent le fait qu'avant que les individus ne mangent, ils ont rendu grâce, ils ont remercié. Il s'agissait de rendre grâce pour ceux qui étaient sur le point de manger. L'exemple de Christ était l'exemple de gratitude et de reconnaissance. Souligne la gratitude et la reconnaissance pour ceux pour ce que cet individu ou ce groupe est sur le point de prendre, de partager pour la nourriture et les provisions. Mais je pense qu'il est important de savoir que c'est l'exemple de Jésus-Christ qu'il a donné et que nous devions considérer lorsque nous relisons ces paroles qui sont contenues dans la prière du Seigneur. Maintenant, qu'en est-il du terme bénir la nourriture? Vous savez, parfois, nous utilisons le terme bénédiction qui est bibliquement exact. Il n'y a rien de mal à demander la bénédiction. Je ne dis pas que c'est le cas, mais parfois, je pense que dans notre esprit, cela peut signifier éliminant les impuretés de la nourriture plutôt que de remercier pour la nourriture, si vous comprenez la distinction entre les deux. Il ne fait aucun doute que les deux sont importants, mais je pense que nous pourrions perdre le véritable contexte de l'eugio, le terme grec, à cause des limites du mot anglais béni. Parce que parfois, nous pensons qu'il s'agit de demander une sanctification spéciale de quelque chose. C'est bien, mais le noyau, le cœur de ce que nous trouvons dans les exemples de Jésus-Christ et même de Paul est la gratitude, la reconnaissance. Il faut donc considérer les deux, remercier Dieu pour cette nourriture alors que nous reconnaissons Dieu comme celui qui fournit notre nourriture. C'est une vérité vitale dont Jésus-Christ voulait que nous souvenions en tant que son peuple. Maintenant, je veux changer de registre. Ceci n'est pas seulement sur la prière avant le repas, bien que nous en ayons parlé. C'est très important pour tout cela, je l'espère, s'enchaîne. Je veux changer de registre. Je parlais brièvement à propos du fait que Dieu nous a donné des instructions sur ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Quand vous parlez de nourriture, il y a un lien important, un lien puissant entre Dieu le Père et le fait qu'il pourvoit pour son peuple. Il voulait que nous reconnaissions d'où cela venait, que nous comprenions ce qu'il fait, ce fait, et il nous a donné les lois alimentaires. Nous le comprenons très bien. Nous ne devons pas seulement reconnaître Dieu comme celui qui pourvoit pour nous, que nous fournit la nourriture, mais en ce qui concerne la nourriture, Dieu a en fait donné à son peuple des instructions sur les aliments à manger et ceux qui ne devraient pas être mangés. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a déjà demandé pourquoi Dieu a fait cela. Je veux dire, il n'était pas obligé d'avoir des viandes pures et impures, ou même d'autres plantes, parce que nous savons qu'il y a des plantes qui ne sont pas bonnes en tant que nourriture. Celles ne sont pas, peut-être pas toujours détaillées dans les Écritures de la même manière que les aliments. Mais pourquoi Dieu les a-t-il créés ainsi? Pourquoi ne les a-t-il pas tous créés pour pouvoir être mangés? Il n'était pas obligé de faire comme il a fait, et je pense que nous savons tous que Dieu ne fait rien en vain, qu'il y a une raison à tout cela. Bien sûr, certains voudraient nous fait croire que la raison pour laquelle il a donné les lois alimentaires sur l'alimentation était que tout n'était qu'une question de rituel sous l'ancienne alliance et qu'il n'y a aucun but ni aucune signification derrière cela. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous savons que ce n'est pas vrai. Mais quel est le dessein, le but derrière cela? Pourquoi y avait-il une distinction? Pourquoi y en avait-il une? Je pense que c'est une bonne question. Lévitique chapitre 11, verset 1. Et bien sûr, nous savons qu'il y a un verset parallèle dans Deutéronome chapitre 14, des versets qui donnent des instructions similaires. Lévitique chapitre 11, verset 1, l'Éternel parle à Moïse et à Aaron et le dit, « Parlez aux enfants d'Israël, dites, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. » Et il s'est mis à donner des instructions, « Si vous allez manger de la chair animale, voici ce que vous pouvez manger. » Et il y en avait d'autres qui ne devaient pas manger. « Oh Dieu !» aurait pu créer toute chair animale bonne à manger. Il aurait pu faire cela. Ça aurait rendu la vie plus facile. Pour beaucoup de gens, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu créer toutes les plantes bonnes à manger, mais il ne l'a pas fait. Oui, je pense que nous savons tous que Dieu veut que nous apprenions à lui obéir. Mais je ne crois pas que le dessein, le but de Dieu pour établir les lois sur l'alimentation était juste pour qu'il puisse obtenir un peu de satisfaction avec les gens qui font ce qu'il a demandé qu'ils fassent. Dieu a toujours un dessein, un but plus profonde avec les directions qu'il donne, avec les instructions qu'il donne à son peuple. Je pense qu'il veut que nous apprenions à discerner, à faire la distinction entre les choses qui conviennent en donnant les instructions et celles qui ne conviennent pas. De reconnaître qu'il y a certaines choses qui sont profitables, bonnes à consommer, et même là, la quantité est un tout autre sujet, et celles qui ne le sont pas. Et donc, à moins que vous soyez nés dans l'Église, et bon nombre d'entre vous dans cet auditoire le sont, certains d'entre nous avons dû apprendre à discerner. Vous savez, jambon a pris un sens différent après que nous soyons entrés dans l'Église. C'est vraiment le cas. Je pense que Dieu veut que nous fassions une distinction entre ce que nous mettons dans notre bouche et dans notre estomac. Maintenant, on peut débattre de parler et parler de toutes les raisons psychologiques pour lesquelles le porc est mauvais pour vous et que la viande de bœuf maigre avec modération est bonne pour vous et certains poissons parce que les oméga 3 sont bons. Vous pouvez tous obtenir ces informations. Nous en publions une partie et c'est valable. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je crois qu'il y a une raison plus profonde derrière tout cela en fonction de ce que nous mettons dans notre bouche. Si vous ne mangez pas de nourriture, si je ne mange pas de nourriture, nous finissons par mourir. Il y a eu des moments dans ma vie, j'avais alors environ 12 ans, où je pensais que j'allais mourir si je prenais pas un repas. Si je ne prenais pas un repas, parce que la nourriture est une partie importante de la vie, bien sûr. Quand j'avais 14 ans, j'étais donc quelques années après mon entrée dans l'église, je travaillais comme aide-serveur dans un restaurant à l'extérieur de Détroit. Le nom du restaurant était Biff's Hamburger. Il n'existe plus. C'était une chaîne. Il n'était pas comme McDonald's. C'était d'un niveau supérieur à McDonald's. Vous pouvez réellement vous asseoir à l'intérieur. C'était un peu plus cher. Il servait quelque chose d'autre. C'était une sorte de croisement entre un restaurant où on faisait des gaufres et un Denis. Mais c'était au milieu des années 60. J'ai donc travaillé comme aide-serveur, parfois je devais faire un travail de préparation pour la nourriture, ce qui signifie en gros que vous faites tout. Vous faites bouillir une grande casserole de pommes de terre pour qu'on puisse faire des pommes de terre isolées, fraîches. Et j'ai dû aussi faire de la sauce cocktail aux crevettes. Quand j'ai vu ces petites crevettes roses, je me suis demandé, les gens les mangeront et les aimeront en les trempant dans cette sauce. Je suis sûr que je parle à beaucoup de gens qui n'ont jamais mangé de crevettes, bien sûr, mais j'étais tenté par ça, et donc un soir, j'en ai fait la demande, bien sûr, mon patron ne connaissait pas les lois alimentaires, alors j'ai dit que je me demandais si je pouvais avoir, elles étaient chères, du moins, sans les normes de l'époque, quelques crevettes, ok, vas-y, j'ai donc fouetté la sauce, au fait, combien ici savent faire de la sauce cocktail? Il y a sûrement quelqu'un ici, d'accord Georges, vous le feriez? Non, c'est essentiellement du ketchup et du réfort. C'est fondamentalement ça. Donc, certains d'entre vous ont probablement eu ça. Vous y avez trempé d'autres choses. Alors, j'ai pris les petites crevettes les plus roses que je trouvais. Je les ai trempées et mangées. Et à 14 ans, je me suis rendu compte, en peu de temps, du moins à ce moment-là, pourquoi Dieu ne voulait pas que nous mangions ces punaises d'eau? C'est ainsi que je les appelle depuis lors. Quand vous pensez aux crevettes, quand vous pensez aux homards, ce sont vraiment des écrevisses, ce sont des insectes, des punaises d'eau. J'avais des remords, je me sentais mal à ce sujet. Mais pas autant de remords, ni aussi mal que j'aurais dû me sentir. Mais j'ai appris dans ce sens que ça ne paye vraiment pas de faire ça. Il a fallu longtemps après cela que je ne comprenne qu'il y a quelque chose de plus profond derrière la raison pour laquelle Dieu a créé les animaux de telle manière que certains sont bons à manger et d'autres non. Deutéronome chapitre 10. C'est une affirmation plus générale, certes, mais on retrouve ici dans Deutéronome chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande-toi l'Éternel, ton Dieu? Nous revenons donc ici à cette question de base et fondamentale. Qu'est-ce que Dieu veut vraiment de toi, Israël? Nous savons qu'une grande partie de leur existence dans les années qui ont suivi, même pendant les 40 ans d'errance, elles se sont écoulées avec des hauts et des bas, tentées parfois d'obéir à Dieu, mais échouées là mentalement. Mais qu'est-ce que Dieu attend de vous ou exige de vous? Si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Remarquez le verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Pourquoi? Afin que tu sois heureux. Anglais, pour ton bien. Pour votre bien. Cela comprenait, soi-disant passant, les lois sur l'alimentation. Avons-nous la foi que Dieu sait de quoi il parle? Je dirais cela de toutes les instructions qu'il donne, mais en particulier celles-ci avec lesquelles les gens ont lutté parfois. Qui a-t-il de spirituel à propos de manger du porc ou non? Et je reprendrai sur le plan physique, peu ou rien, mais il y a un principe plus profond derrière tout cela, dont l'obéissance n'est pas le moindre. Nous avons la foi que Dieu sait de quoi. Avons-nous la foi que Dieu sait de quoi il parle? Cela amène au point suivant. Le jeûne. Dans ce cas particulier, aucune nourriture, ne rien manger ni boire, a une valeur spirituelle profonde. Les Écritures sont claires à ce sujet. Vous remarquez à quel point cela entoure, cela concerne le sujet de la nourriture ou des provisions. Il est significatif que ce passé réellement de nourriture est quelque chose dont Dieu nous dit que cela peut être bénéfique pour ses enfants. Matthieu chapitre 4. Probablement le meilleur exemple de jeûne dans toute l'Écriture. Après le jeûne de 40 jours de Christ, encore une fois, je ne peux pas imaginer à quoi cela ressemblait. 2 ou 3 jours, c'est une chose, mais 40, c'est juste incompréhensible. Se passer de nourriture et de boisson. Christ a fait cela dans un dessein, dans un but. Nous savons que Jésus-Christ a rencontré Satan le diable et ce qui s'en est suivi. Il n'y a pas grand-chose dans Matthieu chapitre 4. Nous en lirons un peu, mais ça devrait être un dialogue et une rencontre fascinante qui ont lieu. Le Fils de Dieu est dépourvu dans le sens qu'il a faim, qu'il est sans nourriture, et nous trouvons le souverain de la terre, au moins dans un sens temporel, Satan, faisant tout ce qu'il pouvait pour le faire succomber à ce qu'il lui offrait, comme c'est le cas dans tant de situations dans les Écritures. C'est l'un de ces domaines où je dois me demander ce qui aurait pu être dit, pensé ou ressenti entre ces deux personnages-là, quand cela s'est passé. Satan tentait Christ de prendre des pierres et d'en faire quoi? De la nourriture, du pain. Nous savons que le Christ a faim, nous savons qu'il avait la capacité et le pouvoir de le faire, mais le Christ a répondu avec la vérité profonde qui se rapporte au sujet dont je parle aujourd'hui et une vérité qui a sans doute, sans aucun doute, énoncé pour notre bénéfice. Nous laissons apprendre et à retenir chaque fois que nous jeûnons ce passé de nourriture et d'eau qui est, entre autres, censé nous humilier. Je dis censé parce que je pense que nous pouvons tous reconnaître que ce n'est pas parce que vous jeûnez que l'humilité spirituelle vous enveloppe automatiquement. Ce que je veux dire, et je pense que nous comprenons, que le jeûne en soi ne vous rend pas humble. Si nous utilisons cet outil de la manière dont Dieu a prévu qu'il soit utilisé, et que nous nous concentrons sur ce qu'il espère que nous ferions, comme vous l'avez lu dans Ésaïe chapitre 58 et ailleurs, alors ce serait certainement, sûrement le résultat. Mais cela ne se produit pas automatiquement parce que nous jeûnons. Mais quand nous le faisons, si nous le faisons avec un dessein, un but, cela peut être un rappel humiliant de la dépendance de Dieu que nous avons pour tout. La dépendance de Dieu que nous avons pour tout. Rappel de ce que le Christ a dit à Satan au verset 3 de Matthieu chapitre 4, et c'est significatif. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, alors ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ordonne que ces pierres soient transformées en quelque chose que tu peux consommer et que tu peux manger pour obtenir la substance dont tu as besoin que tu désires. » Mais il répondit et dit, Matthieu 4:4, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il a établi un lien entre le besoin apparent de nourriture que Satan a estimé que Christ avait, alors qu'il était faible, et ce dont les gens ont vraiment besoin pour vivre. Ce n'est pas seulement la nourriture physique que nous avons, mais il y a une nourriture spirituelle qui est une nécessité absolue pour qu'un être humain soit entièrement, complètement nourri de la manière dont Dieu le voudrait. J'ajoute un peu plus aux paroles que le Christ a dites, mais il cite le Deutéronome. Il fait le point comme quoi ce n'est pas seulement pour la nourriture physique seule, mais par chaque mot qui sort de la bouche de Dieu. Il existe un lien spirituel plus profond entre la nourriture physique que nous mangeons et la nourriture spirituelle que nous devrions faire un régime régulier. Avoir faim de la nourriture physique, ce n'est pas une chose difficile à trouver. J'ai dû aller chez le médecin cette semaine pour un examen physique annuel, mais je prends généralement des dispositions pour y aller tôt le matin, car ils vous font jeûner pendant la nuit parce qu'ils vont prélever du sang pour les analyses dans le laboratoire et venir pas censé manger ou boire quoi que ce soit, du moins ne rien manger. Mon rendez-vous a été changé pour la fin de l'après-midi. Donc, le jeûne qui a commencé la nuit précédente à 18h ou 19h s'est terminé à 16h le lendemain après-midi. Mais quand il a sorti le stéthoscope, il vérifie mon abdomen, il dit « Oh, vous avez faim !» parce que mon ventre lui parlait. Je ne pouvais pas l'entendre, mais je savais ce qui se passait. Alors j'ai dit « Oui, j'ai faim !» Il a dit « Vous jeûnez ?» J'ai dit « Oui, bien sûr !» J'avais faim, mon horloge biologique me disait qu'il était temps de manger depuis longtemps. Nous l'avons tous vécu. Beaucoup d'entre vous se sont probablement retrouvés en famille ou entre amis, ou peut-être que c'était juste votre famille proche pour le 4 juillet. Vous avez peut-être fait un barbecue. Nous avons eu des frères chez nous et nous avons passé un bon moment. Vers la fin de l'après-midi, lorsque nous étions sur le point de servir le repas, tout le monde était prêt, ils avaient faim et moi aussi. Nous avons apprécié le repas ensemble. Donc, nous comprenons comment cela fonctionne. Cependant, avoir faim de la nourriture spirituelle est un peu différent, n'est-ce pas? C'est un peu différent. La culture parle qu'il est possible de vous passer de nourriture spirituelle pendant un certain temps. Une personne peut être dans la situation, la culture parle d'une famine d'entendre la parole, voire la version Ostevat. Mais vous pouvez physiquement vivre sans la parole, physiquement. Nous sommes capables, en tant qu'êtres humains, de vivre physiquement sans la parole de Dieu. Pendant un certain temps, nous le pouvons. Nous vivons dans un monde qui fait cela. Nous n'avons pas automatiquement faim et soif de la justice qui est vraiment définie par la parole de Dieu. Il nous faut la chercher et la poursuivre. Il y a un choix personnel impliqué pour vous et moi pour avoir faim et soif de justice. Dans Matthieu chapitre 5 et le verset 6, c'est le chapitre précédent, celui de la prière du Seigneur, où c'est le chapitre où le Christ élabore ce qu'on appelle les béatitudes, et il fait une déclaration ici, « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasiés. » Faim et soif de la justice. Il y a des moments dans votre vie où vous ne pouvez pas avoir assez de cette nourriture. Je soupçonne que beaucoup d'entre vous dans cette salle ont eu des moments, des périodes de temps, où vous ne pouvez pas étudier suffisamment ou lire suffisamment la parole de Dieu, où vous voulez parler à Dieu autant que le temps et les circonstances vous le permettent. Donc, je ne dis pas que personne ici n'a cet état d'esprit, mais ce n'est pas la même chose si votre horloge biologique vous dit qu'il est l'heure de déjeuner et de dîner. C'est pourquoi le Christ a dit ce qu'il a dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils sont rassasiés. Ils vont manger, ils vont être nourris. Dieu y verrait. Et ce qui nous amène au point suivant, la nourriture spirituelle est essentielle. Le besoin de nourriture pour maintenir la vie est au cœur du sujet dont je parle aujourd'hui, quand la crise nous a instruit de demander à Dieu de nous donner aujourd'hui notre pain quotidien, à la fois physique et spirituel. Le besoin de nourriture, l'approvisionnement, la fourniture de nourriture, le type de nourriture sont au cœur de ce que nous parlons aujourd'hui. Il y a un principe spirituel clé que nous lisons dans Deutéronome chapitre 8, si vous pouvez vous y rapporter. Deutéronome chapitre 8 et le verset 3. Nous trouvons donc ici qu'Israël est instruit à propos de pourquoi, de la raison pour laquelle il traverse ce qu'il a traversé. Verset 3, Deutéronome chapitre 8. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas. Dans quel but? Et que n'avait pas connu tes pères afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous venons d'entendre le Christ citer ceci. Mais il citait l'exemple où l'on disait à Israël pourquoi Dieu l'avait permis d'avoir faim et ensuite l'avait miraculeusement fourni de la nourriture, qu'il y avait une leçon à apprendre. Il y a beaucoup de choses dans cette déclaration dans Deutéronome chapitre 8. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne. ce qui en soi était un miracle, pour te faire savoir qu'il y avait un dessein, un but derrière cela, que l'homme ne vive pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Donc nous savons que Jésus-Christ, qui est le pain de vie, est central. Nous savons qu'à cette époque, il ne comprenait pas pleinement toutes les ramifications de la venue du Messie. Je veux dire qu'il savait à propos du Messie. Nous savons que ce que le prophète Ésaïe a prophétisé à ce sujet, mais en ce qui concerne la façon dont tout cela fonctionnerait, étant donné que la plupart des anciens d'Israël n'étaient pas convertis, il a fallu du temps avant que le peuple de Dieu soit vraiment capable de relier ces points. C'était vrai même de l'Église primitive avec les apôtres originaux. Nous trouvons dans Jean chapitre 6, beaucoup d'entre nous lisent ceci le soir de la Pâque ou des sections de celle-ci, mais dans Jean chapitre 6, nous savons que Jésus leur a répondu, parlons de la même circonstance, verset 26, et il dit, Jésus leur a répondu, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains que vous avez rassasiés, que vous avez été rassasiés. Nous lisons à propos des pains et des poissons. En d'autres termes, je t'ai donné la nourriture physique et toi, être humain, il n'a pas dit cela, mais vous imaginez, vous voyez le tableau. Vous êtes physique. Vous aviez faim, vous vouliez de la nourriture, c'était la bonne nourriture. Je vous ai fourni cette nourriture. Vous avez été impressionné par cela. Vous aviez besoin de nourriture. Bien sûr, nous le faisons tous. La plupart d'entre nous dans cette salle ne vivons pas dans une situation où nous demandons d'où viendra notre prochain repas. Et à cause de cela, nous ne sommes pas parfois en mesure de nous identifier par rapport à certains de ces exemples de la même manière que d'autres. Mais nous remarquons verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Verset 33, « Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Christ révélait une signification plus profonde à sa présence, non seulement dans leur vie, mais finalement pour le monde entier. Vous vous rappelez ce qui est dans le récit de Jean, Jean 3, 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ceci est une description plus détaillée de comment et pourquoi c'est le cas. Il lui dit, verset 34, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Il pensait que c'était un vrai pain réel, un morceau physique de la nourriture qu'ils allaient manger et qui assurerait la vie éternelle. Verset 35, Jésus le dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jésus est la parole, nous le savons. Nous devons vivre selon chaque parole de Dieu. Nous devrions, en tant que le peuple de Dieu, aspirer à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme l'apôtre Paul a enseigné dans Philippiens chapitre 2. Et c'est le pain, la nourriture, dont le Christ a dit qu'elle dure éternellement. Le dernier point que je veux souligner, et je crois que le peuple de Dieu devrait être sur ses gardes pour éviter une mentalité d'avoir besoin de rien à un moment comme celui-ci. Le dernier point est l'aveuglement de l'abondance. L'aveuglement de l'abondance. Je vais me rapporter à Psaume 78. Nous n'allons pas lire tout le chapitre. Si vous connaissez les psaumes, cela prendrait du temps. Et le psaume 78, bien sûr, est un psaume tout à fait unique. C'est un psaume très constructif, un psaume qu'Israël devait mettre à profit, apprendre, pendant qu'il était lu, parce que nous croyons que la raison, le but pour lequel le psaume 78 a été écrit, est pour les serviteurs de Dieu. Dans ce cas particulier, c'était Israël, lorsque les psaumes ont été initialement écrits pour apprendre des erreurs de leurs ancêtres. C'est de cela qu'il s'agit dans le psaume 78, tout le chapitre. Il y en a beaucoup. Cela montre que Dieu était fidèle, qu'il y a eu des moments où Israël s'est rebellé, malgré sa fidélité envers eux, bien qu'il leur pourvoyait pour eux, cela montre qu'ils ne croyaient pas que Dieu pouvait fournir la terre dans le désert qu'ils voulaient. Tout est une question de nourriture. La nourriture était si importante. Ils n'ont pas été impressionnés. Psaume 78, verset 17. Psaume 78, verset 17. Mais il continuait à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Verset 18, il tentait Dieu dans le cœur, on demande de la nourriture selon leur désir. C'est intéressant, il dit que les Israélites tentèrent Dieu. Ils voulaient ce qu'ils voulaient, aux conditions qu'ils voulaient. Comme il a écrit au verset 19, il parlait contre Dieu et dire, Dieu pouvait-il dresser une table dans le désert? Peut-il vraiment faire cela? Peut-il vraiment prendre soin de nous? Croyons-nous vraiment cela? Aujourd'hui, dans notre culture occidentale, beaucoup de gens souffrent, pas tout le monde, mais beaucoup souffrent de l'aveuglement de l'abondance. Qu'est-ce que l'aveuglement de l'abondance? Eh bien, permettez-moi de vous donner une petite définition. Lorsque vous êtes béni avec l'abondance, que ce soit une belle maison, de l'eau, de la nourriture, cette abondance pourrait vous sembler normale. Vous pouvez prendre cette abondance pour acquise. Vous ne voyez peut-être pas la nécessité d'accorder une grande valeur au fait d'avoir un endroit où vivre, de la nourriture, de l'eau, car lorsque vous avez l'abondance, vous pouvez être aveugle quant à son origine, de ne pas savoir d'où elle vient et quelle est sa vraie valeur. L'un des noms de Dieu est Jéhovah Yireh, qui signifie « Dieu pourvoira ». Dieu est défini et décrit de plusieurs façons dans les Écritures. Il était clairement celui qui pourvoyait, qui fournissait. Nous, les êtres humains, sommes fautifs pour beaucoup de choses quand il s'agit de nous tourner vers Dieu ou de prier. Je pense que nous serions tous d'accord avec ceci. Nous prions, nous demandons à Dieu, nous implorons Dieu quand nous en avons besoin, nous l'oublions et l'ignorons, parfois, quand nous avons tout. Nous prions, nous demandons, nous l'implorons quand nous sommes dans le besoin, et parfois nous l'oublions, nous l'ignorons quand nous avons tout. Je vais maintenant parler d'un vieux film, c'est un film plus ancien que M. Burnett pourrait mentionner. J'en citerai un des années 60 et certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. Il s'appelait Shenandoah. Jimmy Stewart avait le rôle vedette. Il était père dans une ferme en Virginie du Nord pendant la guerre civile. Il s'appelait Charlie Anderson. Il était veuf. Il avait une fille, plusieurs fils. Il avait 6 fils. Et il se considérait comme un homme qui craignait Dieu, qui n'accordait pas de crédit à Dieu pour grande chose. Combien d'entre vous ont vu le film Shenandoah? Malheureusement, il n'y a que 12 d'entre vous dans cette salle qui vont saisir ce que je vais raconter. Ça vaut le coup de voir la scène que je m'apprête à décrire au début du film, devais-je ajouter, pour que vous n'ayez pas besoin de regarder tout le film. Jimmy Stewart, si vous savez qui il est, si vous avez vu It's a Wonderful Life, alors vous savez qui est Jimmy Stewart. Alors qu'ils sont assis autour de la table du dîner au début du film pour montrer son indépendance, voici ce que Jimmy Stewart avait à dire avec toute sa famille autour d'une table pleine de nourriture. Ils venaient juste de rentrer des champs où ils avaient travaillé. C'est le décor au début du film Shenandoah. Dit « Seigneur, nous avons défriché cette terre, nous l'avons labourée, semée, moissonnée. Nous avons cuisiné la récolte, ce ne sera pas ici, nous ne le mangerions pas si nous n'avions pas fait tout cela. Nous travaillons d'arrache-pied pour chaque miette et pour chaque morceau, mais nous te remercions quand même, Seigneur, pour la nourriture que nous allons manger. » Amen. Je ne lui ai pas rendu justice. Vous avez en quelque sorte l'image et je ne l'ai jamais oublié. J'ai vu le film plusieurs fois au fil des années, disons. J'aimerais que vous vous reportiez à nouveau à Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8, car nous trouvons ici, Deutéronome chapitre 8, commençons au verset 11, un rappel très stimulant et opportun pour nous tous à considérer. Or, c'est un avertissement que Dieu a donné à Israël. Je me suis souvent demandé à quel point les Israélites pouvaient être riches à certains moments de leur histoire. Je sais qu'il y avait une certaine richesse relative, mais vous trouvez que c'était généralement avec ceux qui dirigeaient le pays, le leadership, si tel était le cas. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela s'est traduit pour bénéficier à la personne moyenne qui faisait partie des 12 tribus. En lisant Deutéronome chapitre 8, j'ai souvent conclu que l'objectif principal allait au-delà de cette génération, de ce que Dieu essaie de nous aider à comprendre en tant que son peuple. Rappelez-vous que nous savons que le psaume 78 en parle, que nous pourrions apprendre des erreurs de nos ancêtres. Verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances, ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, tu rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, et s'augmenter ton argent, ton or, tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne sente que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères afin de t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Mais remarquez le verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. J'ai travaillé pour ça. J'ai travaillé d'arrache-pied dans les champs. Mais merci quand même. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de te confirmer comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Nous trouvons cet avertissement parce que vous ne pouvez pas vraiment l'appeler autrement. Cet avertissement à l'ancien Israël, nous trouvons un avertissement similaire pour la future Église, en fait. L'Église, je suppose, du 21e siècle, et avant, par l'intermédiaire de l'apôtre Jean, Jésus-Christ a parlé à l'Église dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Si vous vous rapportez à Apocalypse chapitre 2 et 3, je me rends compte que ces deux chapitres sont un peu une question pour certaines personnes. Ils se demandent pourquoi cette Église existe et quelles sont les différentes façons de voir cela. Notre littérature en termes d'énoncé de notre position est très claire et utile sur les multiples façons dont nous pouvons comprendre les instructions et les commentaires qui sont faits aux sept églises ici dans Apocalypse 2 et Apocalypse 3. Je pense que la pertinence de ces sept messages à travers l'histoire devient évidente avec la fin du message pour chacune des sept églises, parce que nous savons qu'il y a une fin identique qui est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La répétition de cela nous amène à conclure que c'est un message pour nous aujourd'hui, un message pour nous aujourd'hui. Gardons cela à l'esprit, lisons ces paroles dans Apocalypse chapitre 3, selon laquelle Christ a parlé à l'église de Laodicée, Apocalypse 3 verset 15. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est vraiment un cas classique d'aveuglement de l'abondance, physiquement et spirituellement. Ce n'est pas nouveau pour aucun d'entre nous, et alors que nous terminons, frère, je veux lire un récit qui, je pense, aide à illustrer à quel point la promesse et le besoin de nourriture, de provision, et le fait qu'on prenne soin de nous, nous prend en charge, sont vraiment puissants pour nous, êtres humains, surtout quand les temps sont durs. Et en lisant ceci, je pense que nous pouvons nous rappeler l'importance et la valeur d'être pris en charge. Après la guerre, la fin de la guerre de Corée, la Corée du Sud s'est retrouvée avec un grand nombre d'enfants rendus orphelins par la guerre. Après avoir connu la peur de l'abandon, bon nombre de ces enfants étaient secourus et envoyés dans les champs de réfugiés, des camps de réfugiés, où ils recevaient de la nourriture et un abri. Pourtant, même en présence de bons soins et de bons repas pendant la journée, ces enfants abandonnés étaient agités, anxieux la nuit, et avaient de la peine à dormir. Ceux qui s'occupaient des enfants ont vite découvert que les enfants étaient très anxieux de savoir s'ils allaient s'ils auraient la nourriture le lendemain. Les secouristes ont alors décidé que chaque nuit, alors, lorsque les enfants étaient mis au lit, les infirmières placeraient un morceau de pain dans la main de chaque enfant pour serrer sur la poitrine lorsqu'ils s'endormiraient le soir. Le pain n'était pas destiné à être mangé, il était simplement destiné à être tenu par les enfants pendant qu'ils dormaient. C'était une sécurité pour eux, leur assurant qu'il y aurait des provisions pour leurs besoins quotidiens. S'ils se réveillaient la nuit effrayés, le pain semblait leur rappeler « Je mange aujourd'hui, je vais encore manger demain ». Maintenant, à quel point sommes-nous tous dans cette salle conscients des provisions que nous apprécions tous et que nous avons tous? Qui les fournit? Et vers qui nous tournons-nous chaque jour, tous les jours, pour les choses dont nous avons pour notre nourriture, pour nos tenues vestimentaires, pour notre logement? Frère, je n'avais pas l'intention que ce soit un message sur les vies impures et impures. Ce n'est pas un sermon sur le simple fait de se souvenir de remercier Dieu lors d'un repas. C'est un message à propos d'une simple déclaration de Jésus-Christ. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est un rappel que chaque jour, tous les jours, nous reconnaissions notre dépendance vers Dieu. De reconnaître chaque jour qui est notre pourvoyeur, notre fournisseur. Reconnaître chaque jour d'où la nourriture que nous avons, la maison dans laquelle nous vivons, les provisions que nous avons, d'où elles viennent, lui rendant compte chaque jour que c'est non seulement la nourriture physique que nous avons, mais aussi la nourriture spirituelle à laquelle nous avons accès. Alors que le monde devient de plus en plus sombre, et ce sera le cas, alors que l'abondance de Babylone moderne est de plus en plus affichée devant nos yeux, et c'est le cas, ne détournons pas nos yeux de Dieu, le grand fournisseur, le grand pourvoyeur, plutôt que de tenir un morceau de pain sur notre poitrine pendant que nous nous allongions pour dormir, saisissons et accrochons-nous au vrai pain de vie avec la foi croyante que notre Dieu prendra soin de son peuple et pourvoira à tous nos besoins.